Nous allons lire Évangile de Luc, chapitre 11, verset 24. Nous lirons du verset 24 au verset 26 d'abord. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvant point. Il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti », et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend cet autre esprit plus méchant que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Nous allons méditer assez longuement ce morceau, parce que c'est là une parole du Seigneur. Évidemment, comme toutes les autres, marquée d'une concision particulièrement poussée, mais très riche d'enseignements. Et bien entendu, la concision est peut-être pour nous, et est sûrement pour nous, une source de difficulté. C'est concis, c'est très bref. Il n'y a pas un mot de trop, et il faut aller chercher dans cette parabole, car c'est une parabole, bien que l'esprit impur ne soit pas, lui, une parabole, mais un élément de parabole, si on peut dire. Mais c'est une parabole quand même, la maison qui est ornée, balayée, c'est bien un enseignement sous forme de parabole. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la portée de cet enseignement? Certains ont pensé, notamment Frédéric Godet dans son étude sur l'évangile de Luc, que cela a été dit eu égard à ces exorcistes dont il est parlé dans le contexte. Le Seigneur avait en effet, au verset 19 du même chapitre, déclarer ceci, « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Vos fils, vos compatriotes, qui font œuvre d'exorciste, par qui chassent-ils les démons? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Alors, il y avait des exorcistes, cela est connu, au milieu du peuple juif, et ces exorcistes parvenaient à délivrer certains hommes de l'empire des démons. Et Frédéric Godet pense que lorsqu'ils avaient délivré quelqu'un d'un démon, ce démon était parti, alors la place était libre, mais elle n'était pas occupée. Ils étaient incapables, ces exorcistes évidemment, de placer les âmes délivrées sous la puissance de Dieu. Il les délivrait de la puissance démoniaque, mais ne pouvait pas introduire la puissance de Dieu. Et alors, la place restait vide, libre, et le démon y revenait. Ce n'est pas quelque chose absolument à écarter, mais je pense que l'enseignement du Seigneur Jésus a beaucoup plus d'ampleur, de portée que cela. D'ailleurs, sans écarter ce que dit Frédéric Godet, que je viens de vous rappeler, il faut tout de même tenir compte que ce même enseignement se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12. Le récit est le même, la parole est la même, la parabole ne change pas. Chapitre 12, et elle se termine au verset 45 de la manière suivante. Verset 45, il s'en va, le démon s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Ah, par conséquent, c'est à toute la génération méchante, c'est-à-dire à tous les contemporains du Seigneur Jésus qui manifestaient cette incrédulité et même cette méchanceté à son égard et qui repoussait le royaume de Dieu, c'est à cette classe d'hommes, à cette génération que cela est dit d'abord Et cela parvient, puisque la parole n'est pas cantonnée dans un temps, au contraire, elle s'envole sur tous les temps, cela est dit à tous ceux qui sont dans le cas des adversaires de la parole de Jésus lors qu'il était sur la terre. Alors, par conséquent, nous allons étudier cette parole du Seigneur qui est, il faut bien le dire, très sévère. C'est une parole d'avertissement, d'un avertissement qui doit nous trouver très attentifs. Vous voyez que cette année, nous commençons ce temps d'été par le souci de redonner dans vos esprits l'équilibre qui peut manquer à la parole de Dieu que vous avez reçue et que vous avez peut-être eu tendance à, comment dirais-je, séparer, c'est-à-dire vous avez eu peut-être tendance à y opérer une sélection, vous attachant particulièrement à ces promesses de joie, de repos, de salut, de tranquillité, de sécurité. C'est vrai que tout cela est Romains 10, sécurité, qui pourra nous arracher de l'amour de Dieu. C'est vrai tout cela. Mais attention, la parole de Dieu est une. Et il s'agit de recevoir tout le conseil de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que je m'attache un peu à ramener ce qui est peut-être un peu délaissé, ce qui est mis un peu dans l'ombre, et ce serait un grand dommage, et nous pourrions arriver à de graves mécomptes sur le plan de notre vie spirituelle, de la conduite de notre expérience chrétienne, si nous persistions ainsi. Et puis, il faut dire qu'actuellement, il y a un danger. Il y a un danger, je ne suis pas le seul à l'avoir vu, et il y a des réactions salutaires, heureusement, et ce danger, c'est que l'on prêche justement tout ce qui semble être le bon côté de la parole de Dieu, tout ce qui semble nous dire, par exemple, eh bien, ne vous faites pas de soucis, ne vous faites pas d'inquiétude, vous êtes sûr, vous êtes assuré de la grâce de Dieu, il vous a élu, c'est fini, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez rien à faire, je l'ai entendu cela. Je l'ai entendu. Vous n'avez rien à faire. Je dis non, ce n'est pas une prédication juste, c'est une prédication qui déséquilibre la parole de Dieu. Vous avez quelque chose à faire. Oh, je ne suis pas légaliste. On m'a accusé de cela. Peu m'importe. Je ne suis pas légaliste. Mais attention, la grâce doit accomplir la loi. La loi n'est pas un instrument. C'est en quoi il ne faut pas être légaliste. La loi n'est pas un instrument de salut. Elle nous montre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est immuable. Et c'est la grâce qui est l'instrument de salut. La grâce donc a supplanté la loi, la grâce est venue par Jésus-Christ avec la vérité, mais attention, nous avons quelque chose à faire. Non pas par l'homme, non pas en prétendant nous-mêmes accomplir la volonté de Dieu, ce que les Israélites n'ont pas pu faire, ils ont été une démonstration de cela. Vous voyez donc le légalisme, le mauvais légalisme, je ne le retiens pas. Mais nous avons quelque chose à faire par la foi. Par la foi, c'est répété tant de fois dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Nous avons à user d'une foi agissante par l'amour, dit l'apôtre Paul dans les Galates, une foi agissante et non pas faire œuvre d'une foi passive. La foi passive ne sauve pas, mes amis. La passivité, c'est l'indolence, c'est la paresse, elle est condamnée par l'apôtre Paul, lui qui est le défenseur de la justification par la foi et non par les œuvres de la loi. Lui qui est ce défenseur, eh bien il nous dit, attention, la foi doit être agissante par l'amour. Et l'apôtre Paul, ce défenseur de la justification par la foi seulement et non par les œuvres de la loi, savez-vous qu'il prêchait l'accomplissement des œuvres de la foi, Il le prêchait, vous pouvez lire la parole, vous le trouverez. Il prêchait l'accomplissement, partout où il passait, il prêchait aux chrétiens, aux églises, l'accomplissement des œuvres par la foi. Et puis le Seigneur Jésus a dit, que votre lumière luise devant le monde, afin que le monde voie vos bonnes œuvres. La foi s'atteste par les œuvres préparées d'avance par Dieu, bien sûr, n'est-ce pas, mais la foi est agissante, une foi passive, une foi qui dira, oh Dieu me donne le vouloir et le faire, je peux rester là, tranquille, sans souci, sans rien faire, sans me préoccuper, spirituellement parlant, je ne dis pas autrement, eh bien je n'ai rien à faire, eh bien là, chers amis, c'est un danger, une position scabreuse. Sachons bien cela, chers amis, ce n'est pas que nous ayons à trembler à chaque minute pour savoir si nous sommes sauvés ou pas sauvés, mais nous avons à mettre notre foi en action. Ça, c'est le message de l'Église. La foi des gens qui sont au dehors, qui sont encore, qui n'appartiennent pas encore à Christ, c'est une foi qui va saisir le salut, qui va saisir le pardon des péchés, la grâce, la justification. Elle n'a que ça à faire, d'abord, la foi. Mais une fois qu'elle a saisi, lorsque la nouvelle naissance est survenue, alors attention, la foi est agissante. Et il n'y a pas de message chrétien, de message évangélique qui exclut cela. Alors là, je dirais, c'est un faux évangile. Il faut que toutes ces choses-là soient dites, car il y a un redressement nécessaire à faire. Et je montrerai encore à nouveau ce redressement qui est à faire, n'est-ce pas? C'est absolument indispensable. La foi, c'est entendu. La seule chose que nous ayons à mettre en mouvement, c'est la foi. Mais encore est-il qu'il faut qu'elle soit en mouvement. Et tout ce qui est écrit dans les Épîtres, ce n'est pas écrit pour d'autres que pour les membres de l'Église. Alors, nous revenons à notre texte. L'esprit impur, on peut traduire aussi, certains traducteurs traduisent esprit immonde. Eh bien, il est une personne, d'abord, nous constatons cela. Parce que le Seigneur dit, il va quoi faire? Il va chercher, il ne trouve point de repos, et puis il se dit à lui-même, il a une pensée, il s'en va, il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Enfin, ce court passage nous le présente, cet esprit impur, comme un être pensant et agissant, un être d'un autre monde, mais agissant et pensant. Alors, nous restons là-dessus, le Seigneur donc nous confirme bien qu'il y a des esprits méchants, ce sont des êtres, donc des personnes, acte de personne, ils ont les caractères de la personne. Il va dans les lieux arides, lorsqu'il est sorti de la maison où il se trouvait. Il est sorti d'un homme, alors il s'en va dans les lieux arides pour chercher du repos. Là, nous pouvons tout de suite penser à un principe qui se fait jour ici. Ce principe étant que chaque être, affectionne les choses qui sont en rapport avec sa propre nature. Lui, c'est un esprit immonde. Il va chercher des lieux arides. Vous savez, tout dans la parabole du Seigneur est situé pour nous instruire. À nous de bien regarder ce joyau. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il parlait avec cette concision que je disais tout à l'heure et qui est la marque générale de sa parole, eh bien, il était comme un orfèvre qui ciselait. Il ciselait sa parole. Et c'est une parole parfaite, c'est une parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est entrée dans un langage humain. Elle nous parvient par le moyen d'un langage humain. Mais attention, l'esprit va nous permettre de trouver dans ce langage humain les perfections de la parole de Dieu. Alors, nous pouvons dire ici, n'est-ce pas, que ce n'est pas étonnant que l'esprit impur aille dans les lieux arides. Chaque être affectionne les lieux qui sont en rapport avec sa propre nature. Les oiseaux, par exemple, aiment le grand air et la liberté, tandis que les porcs aiment se vautrer dans la boue. Chaque être, selon sa nature, recherche le milieu qui lui convient, qu'il aime. Les lieux secs et arides conviennent aux esprits immondes. Ils n'aiment pas les verts pâturages, ils ne sont pas là. Ils n'aiment pas les sources d'eau abondantes. Quand la terre sera sous le règne du Messie, alors elle se couvrira, les lieux arides se couvriront de ruisseaux. Et chers amis, c'est ainsi que notre âme, vue à travers les paraboles, doit se présenter à Dieu comme un lieu vert, une montagne couverte de verts pâturages et parcourue par des courants d'eau. Et quand une âme humaine, par exemple, n'aime pas la parole de Dieu, n'aime pas la prière, n'aime pas le recueillement, eh bien, de quelle sorte est-elle, cette âme? Elle n'aime pas. Elle n'aime pas la prière, n'aime pas la parole de Dieu, elle la fuit. Alors, il y a une nature, cela traduit une nature. D'ailleurs, je pourrais trouver d'autres textes où ce principe est encore montré d'autres manières par le Seigneur. C'est très net, n'est-ce pas? La nature va se traduire, va se manifester par, je dirais, l'affection dominante. Et pensons à ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8. Romains 8, ce passage magnifique, c'est un de ces passages auxquels il faut que nous revenions souvent. Romains 8, verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. » Ils s'affectionnent aux choses de la chair parce qu'ils vivent selon la chair, parce qu'ils ont une tendance, parce que c'est leur mode de vie, s'affectionnent selon la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voyez-vous, ils cherchent autre chose, ils cherchent d'autres lieux, ils n'aiment pas les lieux de la chair, ils aiment les lieux de l'esprit, les régions de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, elle est inimitié parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, elle ne se soumet pas. Vous voyez que l'apôtre Paul, je répète, défenseur de la justification par la foi, voit bien qu'il faut que les chrétiens se soumettent à la loi de Dieu par le moyen de la grâce, répondant à leur foi, mais qu'ils se soumettent. Or ceux qui vivent selon la chair, c'est-à-dire, on peut dire aussi également, en dehors de la loi de Dieu, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, vous ne devez pas vivre selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors là, nous allons revenir à ce passage. Nous le laissons un peu en suspens, et nous disons ceci, toujours en rapport avec ce principe que je viens de rappeler. Chacun veut vivre selon ce qui correspond à sa nature. Si c'est l'homme de chair, il veut vivre selon la chair, s'affectionner aux choses de la chair. Si c'est l'homme spirituel, l'homme de l'esprit, il va s'affectionner aux choses de l'esprit. Chacun donc veut vivre selon le mode de vie qui correspond à sa nature. Il y a essentiellement deux grands modes de vie. L'homme de vie, le mode de vie qui plaît à l'homme naturel et qui est appelé dans l'Écriture la vaine manière de vivre, ça plaît à l'homme naturel, ça correspond à sa nature. Ce que font les hommes aujourd'hui dans le monde, ça correspond à leur nature. C'est leur nature. C'était notre nature avant conversion. Ça ne doit plus être notre nature. Alors, Chacun, donc, veut vivre selon le mode de vie. L'homme naturel vit selon la chair et l'homme spirituel selon l'esprit. Le riz, par exemple, veut pousser dans l'eau, mais le désert aride a aussi les préférences de certaines petites plantes. Dans le désert aride, il y a un tas de petites plantes. Il ne faut pas croire qu'il n'y ait absolument rien. Si, si, dans le sable, il y a des petites plantes. Et il y en a qui préfèrent cela. Les déserts, le sol aride. Et alors, ce démon ne trouve en point de repos. Il ne trouve pas dans les lieux arides. Alors, il retourne dans sa maison, il se dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Les démons aiment en effet à disposer de corps, et particulièrement des corps de ces pauvres humains que nous sommes. Ils aiment à disposer des corps. Et c'est par le moyen, en effet, des corps qu'ils vont pouvoir satisfaire leur convoitise perverse. Ce sont des esprits, mais le corps est pour eux un moyen d'aller plonger dans tout ce qui les appâte, dans tout ce qui est leur recherche, dans tout ce qu'ils aiment, dans tout ce qui correspond à leur nature immonde. Alors ils vont plonger dans cette tourbe. Mais il leur faut un corps pour cela. Il y a bien sûr là une idée de possession dans ce court passage du discours du Seigneur Jésus, une idée de possession, mais attention, il n'y a pas que la possession elle-même, les quatre possessions ne sont pas les plus fréquents dans l'Écriture. En général, la possession, disons, la possession absolue, alors cela donne lieu à des comportements qui sont signalés dans l'Évangile et qui sont en somme des comportements par crise, des crises, n'est-ce pas? Le démoniaque, par exemple, possédé vraiment, se jette dans le feu, dans l'eau, et puis se tord, il vit dans les sépulcres tout nus, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas, par conséquent, là, je vous le signale, uniquement de ces cas de possession absolue ou réelle, mais indépendamment de cela, il y a aussi une maîtrise des âmes, et je crois que c'est plutôt cela que le Seigneur voit, parce que les gens qu'il avait devant lui n'étaient pas des gens qui se jetaient tous dans le feu et dans l'eau, ou qui avaient des crises ressemblant à des crises d'épilepsie. C'était pas des gens comme ça, n'est-ce pas? C'était des gens qui, au contraire, allaient normalement et paraissaient tout à fait équilibrés et normaux. Eh bien, cependant, ils étaient méchants. Leur cœur était méchant. Et cela, en raison d'esprit impur qui assurait sur eux une certaine maîtrise. Et c'est surtout ce cas-là, je crois, qui est visé dans la parabole du Seigneur. Les démons se servent de corps qu'ils maîtrisent et dont ils se rendent maîtres selon leur désir à eux. Je retournerai dans ma maison. Alors, la maison, n'est-ce pas, la parabole avec cette maison qui dans laquelle était un démon qui en était sorti et qui va y revenir avec cet esprit plus méchant que lui, eh bien, évidemment, ça nous laisserait penser à la possession pure et simple. Mais ce n'est pas cela à bien y regarder. Il s'agit là d'une parabole, d'une figure. Ne voyons pas nécessairement le cas de possession pure. Alors, quand il arrive, il trouve sa maison balayée et ornée. Il a été chassé, en somme, d'un cœur et d'une vie humaine. Il a été chassé. Alors, il est allé dans les lieux arides, et puis il revient, il retourne à sa maison puisqu'il n'a pas trouvé de repos ailleurs, et il trouve que sa maison est vide, Il y trouve même des ornements. Elle est balayée, elle est propre, balayée et ornée. C'est-à-dire qu'il y trouve dans ce cœur de bonnes dispositions à faire le bien, à servir Dieu. Mais cela ne lui plaît pas. Cela ne plaît pas au démon, pas plus qu'un porc se plairait dans un salon. Il préfère son lieu, il préfère sa porcherie, et si vous lui donnez un lieu très propre, eh bien il s'ingéniera à le salir. Mais ce que nous pouvons noter, et qui est assez vrai, c'est que cette maison nous est présentée comme étant vide. C'est ça qui pose aussi une question. Elle est vide, cette maison. Elle est restée vide. Il n'y a pas un hôte nouveau. Ah, voilà, ça il faut le noter. Elle est vide. Quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, mais il la voit vide. S'il y avait quelqu'un là dans sa maison, ah, il ne serait peut-être pas allé chercher, sûrement pas allé chercher cet esprit méchant en leur disant, venez, venez, nous avons une belle maison là, nous allons venir y habiter. Non, il y aurait quelqu'un, il y aurait un nouveau propriétaire. C'est-à-dire que cette âme, ce cœur, cette vie humaine appartiendrait à un autre. Alors, là, il la trouve vide. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, en somme, n'a pas remplacé la puissance diabolique qui s'est momentanément éloignée. En cela, donc, Frédéric Godet a raison de le noter. Les exorcistes juifs ne pouvaient pas remplacer l'esprit impur par l'esprit de Dieu. Par conséquent, même s'ils chassaient l'esprit impur, ils laissaient la maison vide, la porte ouverte, et cet homme était peut-être délivré d'un démon, mais il restait la proie d'autres choses. Bon, ça, en cela, cette explication de Godet est assez légitime, mais attention, on ne peut pas s'en tenir à ça. Et quelle que soit la raison pour laquelle la maison est restée vide, le démon pousse une reconnaissance. La trouvant disponible, balayée et ornée, il décide d'y revenir, mais pas tout seul. Pourquoi pas tout seul? Eh bien, nous allons voir, il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ce nouvel aspect de la maison ne lui convient pas. Il y a beaucoup à faire pour lui dans cette maison. Il lui faut du renfort. Alors il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Il va chercher des spécialistes. Et c'est alors qu'une entreprise de dévastation en règle va commencer. C'est-à-dire que la tentation va battre son plein dans cette vie humaine. La tentation va être renforcée, va battre son plein. On ne peut pas laisser, pense le démon, un homme dans cette situation-là. C'est pas possible. Ça ne nous convient pas, c'est pas ce que nous voulons. Alors la pauvre âme dont cette maison est l'image, la pauvre âme va connaître tous les tourments de la tentation et sombrer dans une situation de dépravation bien pire qu'avant, et le Seigneur dit la condition de cet homme est pire que la première. Voilà ce qui se passe. Mais il s'agit maintenant de découvrir des applications pratiques de cela. En quoi cet enseignement nous concerne-t-il? Comment faut-il le voir pratiquement pour nous? C'est une question. Nous venons, n'est-ce pas, d'en méditer, de comprendre, évidemment, ce que le Seigneur dit. Mais comment un cœur peut-il se trouver dans cette première situation d'une maison vide, ornée et balayée, puis ensuite le domicile de ces sept démons, plus méchant encore que le premier, et puis dans la condition qui est plus grave encore que la première. Eh bien, il y a plusieurs cas à envisager et qui sont, si vous voulez, dénoncés par cet enseignement du Seigneur Jésus, qui est un enseignement revêtu d'une grande généralité. Ne l'appliquons pas à un cas, un seul cas particulier, bien que nous allons trouver tout à l'heure une application directe de cela dans une épître. Mais il y a, n'est-ce pas, une certaine généralité. Alors, nous pouvons dire d'abord qu'il y a le cas de la pseudo-conversion, ou la demi-conversion. La conversion pourrait presque dire avortée, ou la conversion qui n'est pas allée jusqu'au bout. La pseudo-conversion. Et la pseudo-conversion, elle est un peu entrevue dans le chapitre 8 des Romains que nous lisions tout à l'heure. Et je reprends la lecture, chapitre 8 des Romains, au verset 9. Elle est entrevue, là, cette pseudo-conversion, cette conversion qui n'est pas absolue, totale, qui n'a pas abouti vraiment à une nouvelle naissance, et qui est peut-être un mimétisme, quelque chose qui ressemble. Eh, chers amis, à certains moments, plus d'un pasteur s'est posé la question en considérant certains membres de l'Église, est-il ou est-elle converti vraiment ou non? Entendu plus d'une fois, ça. Enfin, est-ce que la conversion est réelle? On ne sait pas toujours. C'est pas toujours possible, d'abord, à distinguer cela. Alors, voyons, lisons cela. Chapitre 8 des Romains, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà la règle pour les chrétiens. Vous ne vivez pas, pour vous, chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins, voilà un premier si. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Il faut pour que vous viviez selon l'esprit que vous ayez en vous, à pied d'œuvre, l'esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors là, il n'y a pas conversion. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il faut qu'il ait l'Esprit de Christ. Et si Christ est en vous, alors si Christ est en vous, autrement dit, si votre appartenance est certaine, si votre conversion est une réalité, alors le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous voyez comme il fait des réserves, cet apôtre, et si l'esprit, voilà encore un si, un, deux, trois, quatre si, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, qui doit habiter en vous, si vous êtes vraiment des membres du corps de Christ. Alors, il y a la pseudo-conversion. Il y a les gens qui peuvent être là. Ils peuvent écouter des prédications, peuvent écouter des épîtres, s'être associés à l'Église, avoir fait peut-être une avance, une certaine avance, avoir accepté ce qu'on leur a dit, l'invitation à croire, l'invitation même à se repentir, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et qui n'ont pas livré leur vie vraiment à Jésus-Christ pour qu'ils deviennent le propriétaire. Alors, il y a eu un certain effet de purification de la vie de celui-là ou de ceux-là. Un certain effet de purification. Il y a des choses qui ont pu être abandonnées. La maison a été nettoyée. Orné, il y a un certain plaisir pris à l'écoute de la parole, il y a certaines choses, une certaine avance, mais il n'y a pas foncièrement l'expérience de la nouvelle naissance, de la régénération totale, et le Christ n'est pas là. Le Christ n'a pas été saisi. Pas comme dit l'apôtre Paul, j'ai saisi Christ, Christ m'a saisi et moi j'ai saisi Christ, il n'y a pas eu cela. Alors, voyez, n'est-ce pas, que la situation est scabreuse et que cet homme ou cette femme, dans cette situation, va très probablement reglisser, retourner à une situation qui, nous allons le voir tout à l'heure, va être une condition qui va être pire, peut-être que la première. Bon, ça, j'ai parlé de la pseudo-conversion, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas le seul cas. Il fallait bien le noter, ce cas-là. Attention, il y a des gens. Et dans le mouvement, nous ne sommes pas de ceux qui disent « on ne peut pas perdre son salut ». On appelle ça, n'est-ce pas, la sécurité, oui, l'éternelle sécurité, je crois qu'il appelle. Moi, j'appelle ça surtout la sécurité inconditionnelle. Elle n'est jamais inconditionnelle, il y a des « si » dans l'Écriture. Et vous en trouvez beaucoup, des « si ». Dans le langage même du Seigneur Jésus, voyez Jean 15, il y a des « si », beaucoup de « si ». Là, « si vous demeurez en moi ». Si ma parole demeure en vous, si vous gardez ma parole, si vous restez dans mon amour, si, eh bien, il peut y avoir donc des conversions. Mais ces conversions, des raisons qu'ils peuvent être diverses, mais en tout cas qui se résument à ceci, il n'y a pas eu vigilance, il n'y a pas eu maintien de la foi, et il y a eu, au contraire, un abandon, indolence, paresse, et puis l'esprit s'est laissé encore peut-être attirer vers des choses extérieures, les choses de la terre. En tout cas, il y a une altération du cœur régénéré, une nouvelle altération du cœur régénéré. Nous allons voir cela dans une parole de Jésus, dans ce même évangile de Luc. Au chapitre 11 précisément, et nous aurons d'ailleurs à y passer, à voir cela de plus près, chapitre 11, verset 34. Verset 34. Et notez que c'est non seulement dans le même chapitre, mais c'est dans le même discours du Seigneur Jésus. Par conséquent, il y a une relation, vous voyez, à faire. Chapitre 11, verset 34. « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde, que ta lumière, la lumière qui est en toi, il y a de la lumière là, dans ce corps ou dans ce cœur, n'est-ce pas ? La lumière qui est en toi ne soit ténèbre ou ne devienne ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » Et le passage correspondant de Matthieu 6, 22 nous dit « Combien seront grandes ces ténèbres, ces secondes ténèbres ? Si tu laisses les ténèbres revenir en toi, alors là, combien elles seront grandes ? La condition de cet homme sera pire que la première. Les ténèbres vont devenir plus fortes, plus grandes encore. » Alors, là, il s'agit bien, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a fait l'expérience, en effet, par la foi, du salut. Ton œil est la lumière de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. C'est une parabole, bien sûr. Ça veut dire, si vous voulez, lorsque ton cœur est baigné de la lumière de Dieu, la lumière de Christ, alors là, toute ta vie, tout ton corps, toute ta vie, tout ton comportement, n'est-ce pas, tout cela s'en ressent, c'est en bon état. Tu vas vivre la vie nouvelle, tu vas manifester par tes œuvres, par ton nouveau comportement, que tu appartiens à la vie de résurrection. Et tu vas marcher dans la lumière, tu vas marcher dans la lumière. Mais prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre, prends garde qu'il n'y ait un renversement. Un renversement, n'est-ce pas? Alors, ça se ferait si l'œil n'est pas en bon état. Si, par conséquent, cet œil en mauvais état, cet œil ne devienne lui-même un peu, nous verrons le sens exact du grec quand nous y serons, n'est-ce pas, mettons, ne devienne un peu pervers, ne pactise un peu avec ce qui appartient à la perversité, non pas la perversité toujours morale, mais la perversité eu égard à la parole de Dieu. Il y a une perversité dans l'incrédulité, attention, il y a une perversité. La preuve, c'est que Jésus a accusé ses apôtres de perversité, et moralement, ils étaient loin de cela. Loin de cela. Ben, race incrédule et perverse. Et ça leur retombait un peu dessus, c'était pour tout le monde, mais ça, ils en avaient un peu là-dedans, parce que, n'est-ce pas, ils n'avaient pas cru. Eh bien, il y a une perversité. Alors, s'il y a une certaine perversité qui vient regagner notre cœur, si, par exemple, on raisonne la parole de Dieu, et si, par exemple, on se donne des bons motifs humains, c'est-à-dire des mauvais. Des mauvais motifs humains pour dire, oh, ça, faut pas être excessif, on va pas faire ceci, on va pas. Alors, petit à petit, le cœur va rentrer à nouveau dans une incrédulité perverse et les ténèbres vont le gagner à nouveau. Alors là, cette fois-ci, n'est-ce pas, la condition va être pire, les ténèbres vont envahir la vie. Que la condition de l'homme va être pire que la première. Alors, nous avons là donc un cas, voyez, et puis cela est corroboré, n'en déplaise aux théoriciens, aux dogmaticiens de tout haut qui nous disent on ne peut pas perdre son salut. Ils raisonnent comme des petits-enfants, ils raisonnent trop, ils raisonnent humainement, c'est pour ça qu'ils voient ça. Le Seigneur nous place toujours devant les cieux. Il nous dit, nous n'avons pas besoin de craindre, attention. Vous serez mes enfants, mais mon esprit vous le dira. C'est mon esprit qui vous le dira, c'est pas vous qui en jugerez. L'esprit nous dira que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que l'esprit nous le révèle. C'est l'esprit de Dieu qui nous le dira. Mais le Seigneur nous met devant les scies. Hein? Il faut que nous sachions que nous sommes en possession de liberté, donc de responsabilité. Tout est permis. Mais tout n'est pas bon. Tout ne sanctifie pas. Alors, nous avons dans Hébreux 6, le fameux passage qui est bien connu, Hébreux 6, verset 4, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qu'est-ce qu'il faut de plus pour être sauvés, et qui sont tombés, il y a des gens, on envisage ça, des gens qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, ils avaient été renouvelés, ils avaient été premièrement amenés à la repentance, mais ils ne peuvent pas l'être une seconde fois, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Eh bien, si vous êtes comparé à une terre à laquelle le Seigneur met le feu, comment voulez-vous prétendre à ce moment-là ne pas être en possession du salut ? Quoique nous parlions ainsi, bien aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures. Bien sûr, l'auteur de l'Épître, le Saint-Esprit, ne veut pas les laisser sur cette vision un peu terrible, n'est-ce pas ? Alors il les ramène. Mais attention, c'est là que nous voyons bien l'équilibre de la parole de Dieu. Voyez-vous l'équilibre ? Attention, n'est-ce pas ? De ne pas être comme cette terre réprouvée à laquelle on finit par mettre le feu. Mais nous, n'est-ce pas, l'auteur va le dire, nous avons une espérance à laquelle nous nous accrochons et nous allons vivre en raison, en regard de cette espérance. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et au verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant juger par un plus grand que lui, il jura par lui-même, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ayant persévéré. Nous pouvons relire aussi les versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le zèle! C'est pas quelque chose à faire, ça, c'est pas quelque chose à donner, quelque chose à manifester. Le zèle, pour conserver jusqu'à la fin Je lisais dernièrement ce qu'on peut presque appeler le testament d'un jeune théologien allemand qui était armé beaucoup de fois, qui est mort en martyr, à 30 et quelques années, Bonhoeffer. Je lisais dans son écrit que la justification, c'est une chose admirable, magnifique, mais que la justification appelait la sanctification, laquelle est seule apte à conserver le résultat de la justification. Le fruit de la justification, la sanctification va le conserver. Et nous avons souvent écrit au tableau ici, vie égale justification plus sanctification. N'est-ce pas ? La sanctification est apte à conserver le fruit de la justification. Si vous êtes justifié, lavé, régénéré, et qu'après, vous retombiez par terre, vous retombiez dans ce qui... Alors, quel avantage ? En sorte que vous ne vous relâchiez point, vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est très beau d'envisager les promesses et de les repasser dans son cœur, magnifique, très bien, mais repassez aussi les avertissements de Dieu. Mais mettez-vous à l'œuvre, comme dit l'Écriture, mettons-nous à l'œuvre par la foi, il faut le faire. Et nous avons aussi un passage dans Hébreux 10, mais enfin je ne vais pas aller trop loin, et nous allons arriver à un exemple qui correspond exactement au texte qui est à l'étude. Cet exemple se trouve dans 2 Pierre. Vous allez voir que 2 Pierre a pensé à cet enseignement du Seigneur Jésus en écrivant ce que nous allons lire. 2 Pierre chapitre 2. Alors, je ne vais pas lire... Si, on va lire d'abord... oui, il faut lire au commencement du chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et je passe tout de suite au verset 12. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, Vous voyez qu'elles sont en danger, celles-là. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, voyez, ils ont connu le droit chemin, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ce sont là, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Voyez-vous l'obscurité, l'œil en mauvais état, l'obscurité, les obscurités, les ténèbres secondes. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous comme il s'était bien retiré, la maison avait été balayée et ornée. Il s'était retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'y engage de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. C'est bien ce que Jésus dit. Ben, la condition de cet homme est pire que la première. Vous voyez, donc Pierre a bien pensé à l'enseignement de Jésus lorsqu'il a parlé de ces gens-là. Alors ces gens-là sont des faux docteurs ou des faux prophètes, mais attention, il peut y avoir dans l'Église aussi des gens qui s'en font absolument œuvre de faux prophètes ou de faux docteurs. Se trouvent dans cette tombe, dans cette triste situation, que voilà, ils sont vaincus. Alors leur situation, leur condition, leur dernière condition est pire que la première. Alors vous voyez que ça intéresse même des gens qui ont été retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus. Seulement, la connaissance du Seigneur Jésus qui est, en somme, la communion, ils l'ont eu, ceux-là, sont pas comme les pseudo-convertis, ils l'ont eu, cette communion, mais ils se sont détournés, et alors le Seigneur Jésus, qu'a-t-il fait? Eh bien, il est sorti de là. La maison s'est trouvée vide, il est sorti comme dans la lettre à la Odyssée. Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Le Seigneur veut bien rentrer, tant qu'il en est encore temps. Je me trouve là et je frappe. Mais attention, dans les lettres de l'Apocalypse, on voit aussi qu'il y a un point de non-retour. Il y a un point de non-retour. Mais le Seigneur Jésus est à la porte. Moi, je me suis toujours demandé comment ça se fait. La lettre à la Odyssée, c'est une lettre à une église. C'est une lettre à une église. C'est pas à des inconvertis, c'est à une église. Eh bien, il se tient à la porte. Pourquoi il est dehors, Seigneur Jésus? Alors, s'il est dehors, si nous avons, autrement dit, distendu la communion avec le Seigneur, alors la maison est bien balayée et ornée. Mais attention, le démon, là, il est guette. Il est là, puis un jour, il vient, flairé par là, se dit, tiens, oh, la maison, elle est vide. Elle est vide, la porte est ouverte. Il n'y a personne. Alors, il va chercher ses confrères. Enfin, venez vite. On ne peut pas habiter là-dedans, nous. Il nous faut mettre tous en dessous. On ne peut pas habiter là, nous. On ne peut pas devenir des saints. Nous sommes des démons. Nous ne sommes pas voués à devenir des saints. Alors, venez. Nous allons rentrer là-dedans. Et puis alors, c'est le saccage. C'est le saccage à nouveau, n'est-ce pas? Alors, les ténèbres reviennent en masse et elles sont plus grandes que la première fois. La condition de cet homme est pire. Et nous avons parlé hier de ce missionnaire américain, qui en est arrivé lui aussi à des choses abominables, et qui veut entraîner les âmes des enfants de Dieu dans l'abomination, ayant fait par exemple découper une estrade sur laquelle il y avait eu, paraît-il, un miracle, et on nous dit même une résurrection, je sais pas. Et alors, on a découpé ça en petits morceaux de bois, qu'on a vendu, 10 000 francs chacun, et avec ce petit morceau de bois, les acheteurs devaient mettre ça sur la partie malade, ou prier avec ça, je ne sais pas quoi faire, et puis il y avait d'autres systèmes comme ça, n'est-ce pas? La superstition, l'idolâtrie, qui revient en masse, qu'il réintroduit, cet homme est une fontaine sans eau. Cet homme est un homme redoutable, un faux prophète, dont il faut se méfier. La parole de Dieu a force contre ces gens. Ce n'est pas nous qui le condamnons, bien sûr, mais nous sommes prévenus par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Méfions-nous de ces gens-là. Et méfions-nous nous-mêmes, n'est-ce pas, de rester comme des petites brebis du Seigneur. Ce n'est pas difficile. Ne croyez pas que la vie chrétienne soit difficile. Elle est difficile quand nous la vivons mal. Quand nous la vivons en prétendant mettre un pied d'un côté, un pied de l'autre. Alors nous clochons des deux côtés. Enfin, nous clochons des deux pieds. Alors ça, c'est difficile. C'est même, à un certain moment, impossible. Impossible de servir Dieu et Mammon. Mais si nous voulons servir Dieu de toute notre âme, comme des petits enfants, mes amis, alors là, ça ira tout seul. Ça ira tout seul parce que, n'est-ce pas, il faut dire une chose, c'est que la parole de Dieu est une parole vivante et puissante, et que cette parole, elle porte en elle son pouvoir d'accomplissement. Mais ce pouvoir d'accomplissement, notre foi le désire, l'accepte, et le pouvoir d'accomplissement, c'est la grâce de Dieu. Un pouvoir d'accomplissement qui accompagne la parole de Dieu. Et alors ce pouvoir d'accomplissement, il est là. Et si nous sommes vraiment des persévérants, si nous restons humbles, simples, si nous sommes de ces pauvres en esprit et non pas de ces orgueilleux qui se disent « Moi, je connais la Bible ». Non, nous sommes des pauvres en esprit, alors le royaume des cieux est à nous déjà, n'est-ce pas, est à nous, et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, et qui nous apporte, lui, en masse le royaume de Dieu, là, le Saint-Esprit est en nous, et tout va bien, et nous allons, et nous progressons, et le Seigneur nous élève, n'est-ce pas, si nous persévérons, si nous restons dans l'appartenance à notre Seigneur et Maître, que cela soit pour sa gloire. Amen.